Livre du Lévitique, chapitre 3, le premier verset. Si l'oblation de quelqu'un est un sacrifice de communion, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Quand nous lisons les cinq sacrifices qui sont cités, nous nous apercevons qu'ils sont tous différents. On l'avait noté notamment entre les deux premiers. Le premier était un sacrifice sanglant, tandis que le second ne l'était pas, puisque c'était l'offrande dite des gâteaux, hein, qui était faite avec cette fleur de farine, pétrie avec de l'huile et puis revêtue d'huile ensuite, par la suite. Et le sacrifice de communion est encore différent. D'ailleurs, dans vos versions, il doit être traduit de manière différente. Pour ceux qui ont la version Louis II, il doit être traduit le sacrifice d'action de grâce. Et en fait, ce troisième sacrifice a plusieurs noms. Les théologiens lui donnent plusieurs noms, peut être traduit de différentes manières. Premier, donc, c'est le sacrifice d'action de grâce. Le second nom qui peut être donné, c'est le sacrifice de communion, comme le traduit la version La Colombe. Et pourquoi? Tout simplement parce que, au travers bien de ce sacrifice, c'était un moyen de remercier Dieu, de lui montrer que l'on était réellement réconcilié avec lui, avec le Père, au travers de son œuvre, au travers de son sacrifice. Si je vous demandais ce que signifiait le mot communion, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parfois, on utilise des mots sans réellement savoir exactement ce qu'ils signifient. Être en communion avec quelqu'un, c'est quoi? Il y a ça. Alors, j'ai cherché dans deux dictionnaires différents pour voir un petit peu ce que ça pouvait vouloir dire. Premier, c'est dans le Petit Larousse, où la définition, c'est partager les idées de quelqu'un. Lorsque je suis en communion avec Dieu, ça veut dire que je partage ses idées. Ce qui fait évidemment référence à la nouvelle naissance, lorsque, eh bien, d'incroyants, d'impies que nous étions, le Saint-Esprit nous a régénérés, nous a fait naître de nouveau, et nous nous sommes mis à avoir des rêves nouveaux, nous nous sommes mis à avoir une mentalité nouvelle, nous nous sommes mis à avoir des projets nouveaux, et de ce fait, on était déjà en adéquation avec Dieu. Le dictionnaire biblique traduit d'une manière un petit peu différente lorsqu'il dit « relation avec laquelle deux parties ont une chose en commun ». Nous pouvons être en communion avec une personne à partir du moment où nous avons une chose en commun. Et quelle est la chose que nous avons en commun avec Dieu? Jésus. Jésus. Et ce sacrifice de communion, lorsqu'il était offert, eh bien, typifie bien sûr l'œuvre de rapprochement que Jésus a fait entre Dieu et nous. Nous sommes en communion avec Dieu pour une seule et unique raison. C'est parce que Jésus a donné sa vie que nous sommes revêtus de son sang et que Dieu nous voit au travers de son sang. Nous ne sommes pas en communion avec Dieu parce que nous prions. Nous ne sommes pas en communion avec Dieu parce que nous le louons. Nous ne sommes pas en communion avec Dieu parce que nous entrons dans une église. Mais nous sommes en communion avec Dieu parce que nous sommes unis à lui par Jésus. Et c'est un lien qui est profondément indestructible. Alors bien sûr, tout ce que je viens de citer rentre, eh bien, au travers de ce schéma-là, parce que si nous prions dans le nom de Jésus, nous approchons et nous prenons le chemin que Jésus a inauguré vers le trône de la grâce, lorsque nous venons dans l'église, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Et de ce fait, nous venons, eh bien, au travers de tout cela, au travers du sacrifice de Jésus. Nous sommes en communion avec Dieu au travers d'une seule et unique chose, c'est le sacrifice de Jésus et la foi dans son œuvre. Donc, sacrifice d'action de grâce, on reviendra sur ce thème-là, sacrifice de communion, il est également appelé sacrifice de prospérité. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Lorsqu'un Israélite allait offrir ce sacrifice, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il voulait remercier Dieu pour la prospérité, pour la bénédiction qu'il lui avait donnée. Nous savons que dans l'Ancien Testament, bénédiction rimait avec prospérité. Les patriarches ont été bénis et leur menu bétail et leur bétail ont été multipliés de part et d'autre, que ce soit Abraham, que ce soit Ésaü, que ce soit Jacob, etc. Le Seigneur les a bénis. Et lorsqu'on parlait de bénédiction en israélite, ils pensaient essentiellement à la prospérité matérielle ou alors à la naissance d'un garçon, hein, notamment pour les premiers-nés. Bon, ça, c'était le signe de la bénédiction. Aujourd'hui, nous, notre bénédiction est quand nous faisons monter ce sacrifice de reconnaissance vers Dieu, lorsque nous faisons monter nos actions de grâce vers Dieu, ben nous bénissons. Une action de grâce, ça sert à quoi? à dire merci au Seigneur pour ce que tu m'as donné. Merci parce que tu m'as béni. Merci parce que dans ce domaine-là, tu as participé à ma prospérité. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu m'as béni dans mon travail. Merci parce que tu m'as donné une femme tout à fait remarquable et extraordinaire. Merci parce que tu m'as donné une belle-mère qui n'est pas moi. Merci Seigneur, parce que tu as pris soin de moi. Merci parce que tu m'as rendu prospère, mais c'est également valable dans le domaine spirituel. Est-ce que nous nous rendons compte de tout ce que nous avons en Jésus-Christ ? J'aime beaucoup lorsque Paul dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. Nous n'avons pas la moitié, nous n'avons pas un petit peu, mais nous avons tout en Jésus-Christ. Alors, parfois, il nous semble manquer d'énormément de choses. Vive la société de consommation. Mais, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons réaliser pleinement, au travers des actions de grâce que nous faisons monter, que notre Dieu nous a rendus prospères dans les cieux, et que notre Dieu nous a rendus prospères sur la terre, dans notre vie spirituelle, et qu'il prendra soin de nous. Quatrième nom de ce sacrifice, c'est le sacrifice de paix. Sacrifice de paix, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il nous réconcilie avec le Père. On n'oublie pas que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 53. Et quand un Israélite allait faire ce sacrifice, tel qu'il va être décrit, eh bien, il célébrait la paix qui était scellée entre Dieu et lui, hein, au travers du sang qui allait couler. Alors, ces termes peuvent être étrangers les uns aux autres. Comment ? Mais on s'aperçoit que finalement, on les fait concilier et on les fait cohabiter très très bien les uns avec les autres. Quel lien peut-on trouver entre la paix et la prospérité ? C'est que l'on le sait, lorsqu'il y a la paix dans un territoire, dans un pays, en règle générale, il y a la prospérité. Et à partir du moment où Dieu a mis la paix dans notre cœur, eh bien, une terre nouvelle a été mise et une forme de prospérité spirituelle a été semée. Regardez le temps de Salomon. Comparez le règne de David et de Salomon. David, il a souvent bien couru de droite et de gauche. Et parfois, il a eu faim, il a eu soif. Il a été obligé même de manger des pleines propositions parce que tellement ses armées étaient affamées. David n'a pas eu un règne riche, matériellement parlant, parce que c'était un homme de sang, comme dira Dieu. Salomon, en revanche, a eu un règne de paix, que certains théologiens assimilent d'ailleurs au millénium. Et ça a été un règne comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Il en va de même pour la prospérité spirituelle de l'Église. Dans les Actes des Apôtres, qu'est-il dit de l'Église ? Qu'elle était en paix, et que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. À partir du moment où l'Église est en paix, et bien le Seigneur ajoute et se favorise ces choses-là. Donc, il y a un lien fort entre la prospérité et la paix. Deuxième lien qu'on peut trouver, c'est entre la paix et la communion. Je suis en communion avec Dieu à partir du moment où je suis en paix avec lui. Je ne peux pas être en communion avec mon Dieu quand je ne suis pas en paix avec lui. Quand tu as un péché, je ne peux pas être en communion. Et le péché, qu'est-ce qu'il fait ? Il sème le doute dans mon cœur, il sème le trouble dans mon cœur, et il casse la relation, il m'éloigne de mon Dieu. Automatiquement. Troisième lien, où là on se souvient pardon, de ce texte de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. J'aime bien ce terme-là. Perfectionnez-vous. Consolez-vous, ayez un même sentiment, une même communion, en quelque sorte. Vivez en paix et, j'aime bien ce petit « et » là, d'ailleurs dans les textes de Paul, il faut toujours faire attention aux petits mots. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. D'accord ? Donc là, on voit le lien fort qui peut exister entre tous ces termes, paix et communion. Voilà, c'était une légère digression, vous ne m'en voudrez pas. Parce que je suis sûr que vous brûlez l'envie de rentrer dans le texte et de voir un petit peu à quoi s'apparente ce sacrifice. J'en doute absolument pas. Alors, quelle est la typologie générale du sacrifice dit de communion, ou dit de prospérité, ou dit de paix, ou dit d'action de grâce ? On peut l'appeler de différentes manières. Une façon de rebondir et de marquer le coup. Première chose qu'on peut voir, c'est que c'est un sacrifice de voix. Puisque c'est un sacrifice de voix puisqu'il était célébré en famille pour la plupart du temps. La famille venait au temple Et puis là, eh bien, offrez le sacrifice et de manière à célébrer ensemble la bénédiction que Dieu leur avait donnée. Plusieurs choses au travers de ce simple fait. Lorsque Dieu me donne quelque chose, c'est bien de me dire merci, mais c'est mieux de le partager. Comprenez? Mais souvent, merci Seigneur parce que tu m'as béni. C'est déjà bien quand on lui dit merci. Enfin, dans notre église, hein, chez nous, en fait. Dans notre église, très très loin, enfin, bref. Nous, on le fait tous. On n'est pas ingrat, pas du tout. Hein. Systématiquement, on est conscient que c'est lui qui nous donne le mouvement, l'être, le voir, le faire, le souffle de vie, bref, on le remercie tous les jours pour ça. C'est évident, c'est évident. Mais quand Dieu nous donne quelque chose de concret, eh bien, oui, on lui dit merci, merci de m'avoir protégé, merci de m'avoir gardé. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent au temple ensemble et en quelque sorte, ils publient le fait qu'ils ont été bénis par Dieu. Ils partagent cette bénédiction, pas simplement avec Dieu, mais avec tous ceux qui seront présents. Et je crois que la reconnaissance que l'on doit à Dieu, c'est quelque chose qui se partage. Qui se partage avec mes frères, qui se partage avec mes sœurs, qui se partage même avec les inconvertis. En guise de témoignage. Parce que je suis reconnaissant, eh bien je publie les bienfaits de Dieu. C'est ce que dira le psalmiste. Je publie. C'est quelque chose qui est cher à mon cœur. Je ne le garde pas pour moi. Je ne le garde pas pour moi et Dieu. Mais je le dis, quand c'est visible, bien sûr, il ne s'agit pas non plus de manquer de pudeur, hein, ou alors de faire un panneau dans West France. Mais quand l'occasion nous est donnée, voilà, ma reconnaissance, je la montre et je la témoigne. Céline, j'ai été bénie par le Seigneur, tu savais. Attends, je me suis fait du bien. Et ainsi, on s'édifie. La reconnaissance, voilà, ça se partage. Et c'est le premier enseignement que l'on peut tirer de cela. On le fait lors d'un culte. Un culte, c'est un culte de louange, d'adoration, dans notre vocable pentecôtiste, bien pensant. Mais c'est également un culte d'action de grâce où on remercie Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Vous connaissez, je ne vais pas vous le redire, la différence entre la louange et l'action de grâce. La louange, je bénis Dieu pour ce qu'il est, Jésus pour ce qu'il est. L'action de grâce, je bénis Jésus pour ce qu'il fait. Et on partage les uns avec les autres. Ce n'est pas simplement un agglomérat de prières, un culte. Une prière, une réunion de prière comme ce soir, ce n'est pas simplement un agglomérat de prières. Mais c'est une fusion. Dire que quand Myriam prie, eh bien, on s'associe à la prière de Myriam et ensemble on porte. On ne fait pas qu'écouter en cherchant éventuellement les fautes de français qu'il peut y avoir. Ça, c'est quand je prie moi, hein. Quand je prêche moi, je sais. Non, on s'associe les uns aux autres et on partage. On partage la reconnaissance qui monte, on partage la reconnaissance que l'on porte, on le fait ensemble, ensemble. Et on invoque ensemble le nom de notre Dieu, et on s'associe à la bénédiction que Yann a reçue. Il a été béni, il le dit, mais alléluia, merci Seigneur, et il nous arrose ainsi. C'est important ça, c'est une notion, la reconnaissance qui se partage. Qui se partage. Deuxième chose que l'on voit, c'est que ce sacrifice, et là on va rentrer un petit peu dans le texte, peut être fait dans deux cas. Le premier cas, donc là on va aller dans Lévitique 7, à partir du verset 11. Lévitique chapitre 7, à partir du verset 11. Voici la loi qui concerne le sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, donc vous voyez le « si » qui ramène à un premier cas, ça veut dire qu'il va y avoir un second. Il offrira avec le sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes arrosées d'huile et de la fleur de la farine, faites en gâteaux pétris à l'huile. Ça vous rappelle quelque chose? C'est quoi? D'accord, ça vous rappelle quelque chose. Il est vaguement entendu parler ça jeudi dernier, mais je pense qu'il y a plus. C'est le sacrifice d'offrande. D'accord. Il offrira son oblation avec des gâteaux de pain levé, en plus de son sacrifice de reconnaissance et de communion. On présentera en prélèvement pour l'Éternel une portion de chaque oblation. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime de communion. La chair du sacrifice et de reconnaissance et de communion sera mangée le jour de son oblation. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Point. Ça va? Alors, là, on est dans le cadre même de la reconnaissance. Un Israélite a été gardé, un Israélite a été béni. Alors, eh bien, il va au temple et il va offrir ce sacrifice d'action de grâce, ou ce sacrifice de communion, ce sacrifice de paix, ou ce sacrifice de prospérité. Bref, en quelque sorte, il va dire à son Dieu, merci d'avoir été mon ami. L'action de grâce, c'est ça. C'est dire à Jésus, merci d'avoir été mon ami. Et c'est quelque chose qui est somme toute tout à fait normal, c'est ce qu'on trouve dans Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant notre royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Il n'est pas dit, cachons-la, mais montrons notre reconnaissance. J'enfonce le clou. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, comment ? Avec piété et avec crainte. Avec piété et avec crainte. Et le culte lévitique est un culte qui était rendu avec piété, avec crainte. Il n'y a qu'à voir la rigueur qui était nécessaire pour le faire. Voyez-vous, mes frères et sœurs, et là je vais faire une petite parenthèse. Je pense que la reconnaissance, on la doit à Dieu. Tout à l'heure, j'en plaisantais. Mais concrètement, de plus en plus dans les familles chrétiennes, et ça c'est le constat d'un vieux pasteur, qui est assis sur ma chaise, on rend de moins en moins grâce à ta vie. Pour les aliments que tu nous donnes. Est-ce qu'on le fait? Et comment le fait-on? Petite prière bien religieuse. De manière à avoir bonne conscience. Et après. Autre Paul écrira à Timothée, chapitre 4, verset 4, dans la première épître, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alors ensuite, il ne faut pas non plus que ce soit un acte religieux. Mais on doit mesurer que si Jésus est sur notre table, on ne dit pas. Notre Dieu y est peut-être pour quelque chose. Et que c'est plus qu'une simple ritournelle, mais que c'est quelque chose que l'on doit serrer dans notre cœur. Le peuple français, les chrétiens de France ont peut-être oublié cela. Et je le prêche moi-même. Deuxièmement, l'action de grâce, elle suit la prière. J'aime bien cette notion. Chaque fois, très souvent dans le Nouveau Testament, qu'il est parlé de prière, juste derrière, il y a la notion d'action de grâce qui revient. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Comme un acte de foi. Seigneur, je t'ai demandé. Seigneur, j'ai reçu. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je me pose dans cette dimension-là. Je trouve que c'est bien qu'on finisse son temps de prière personnelle en disant, Seigneur, je crois que j'ai reçu. Seigneur, tu m'as donné quelque chose. Troisième domaine dans lequel la reconnaissance doit être là, c'est pour les services qui sont les nôtres. Je le dis souvent, mais c'est bon de rafraîchir notre mémoire. Servir, ce n'est pas un privilège qu'on fait à Dieu, mais c'est un privilège que Dieu nous fait. Colossiens, chapitre 3, verset 17, il y a beaucoup ce verset. Et quoi que vous fassiez, sous-entendu de spirituel ou de pas spirituel, dans l'église, de visible ou pas dans l'église, de visible ou dans l'invisible, peu importe, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, tous les mots sont importants. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-le pour Jésus, comme pour Jésus. Vous êtes au travail, eh bien, on fait les choses comme pour Jésus. On fait la vaisselle, on les fait comme pour Jésus. Beaucoup moins drôle. Vous comprenez l'esprit? Avec des actions de grâce. Je te bénis, Seigneur, parce que j'ai le privilège de faire ça. Tu me l'as donné. Tu me l'as donné. Quatrième domaine, la reconnaissance et les actions de grâce s'exercent dans le témoignage que nous donnons et qui diffère de la mentalité de ce monde. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Et ce texte-là, il est un peu dur. Vous me pardonnerez, c'est mon quart d'heure désagréable. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je relis. Chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ça fait rigoriste, ça. Hein? Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et une question à se poser. Combien d'actions de grâce a-t-on dans nos discussions dans une journée? Mettons que l'on dorme 8 heures par jour, ce qui est déjà beaucoup. Le reste du temps, il paraît que on peut débiter quelques milliers de mots par jour. Ensuite, combien d'actions de grâce sur ces milliers de mots? Voilà, je vous fais réfléchir. Je vous réfléchis pour ma part. C'est très édifiant. Les modalités de ce sacrifice de reconnaissance. L'Israélite a été béni, il le reconnaît, il monte au temple. Comment est-ce qu'il va faire? Premièrement, on note la présence d'un gâteau d'offrande. Vous ne remarquez rien dans ce gâteau d'offrande? Il y a quelque chose qui devrait vous choquer. Il y a du levain. Il y a du levain. Alors que nous avions insisté la deuxième fois, la dernière fois, sur le fait que les gâteaux devaient être sans levain. La parole de Dieu se contredirait-elle? Non, parce qu'il y avait un élément qu'on n'avait pas vu, c'est que les gâteaux des prémices, eh bien, pouvaient avoir du levain. J'en profite pour expliquer pourquoi. Bien camper avec Dieu, et ça c'est un concept que j'aime beaucoup, bien que réconcilié avec Dieu, j'ai un grand scoop, nous ne sommes pas parfaits, ce qui ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas, ce qui ne veut pas dire que Dieu ne veut pas de notre reconnaissance. On peut trouver des chrétiens qui se disent « Mais je ne suis pas digne de louer Dieu, je ne suis pas digne de lui apporter un culte, je ne suis pas digne de lui apporter quelque chose, parce que dans ma vie il y a ci, parce que dans ma vie il y a ça, parce que dans ma vie il y a ci, il y a ça. » Bref, et qui finalement eh bien, se privent, et surtout privent Dieu de leur reconnaissance, privent Dieu d'un culte, parce qu'ils focalisent sur le levain. Oui, il y a encore du levain en nous, qui tend à disparaître. Encore heureux. Il y en a moins, il y en aura moins demain qu'il y en avait aujourd'hui. Mais il y aura du levain. Et là, cet exemple nous montre que même si nos vies ne sont pas parfaites, même si nos vies ne sont pas nickel, ne sont pas aussi droites que celles que ce que l'on voudrait, ne privons pas Dieu d'un culte de reconnaissance. Et donc, là, on se retrouve finalement sur une première race de chrétiens qui ne focalise que sur le levain. En disant, puisqu'il y a du levain, eh bien, je ne veux pas rendre un culte. Ça se trouve. Peut-être qu'il y en a-t-il. Hein, peut-être qu'il y en a-t-il dans cette salle. Puis il y a une deuxième race qui, eux, focalisent uniquement sur le sang. En disant, j'ai été pardonné, j'ai été justifié, Dieu m'aime, j'ai été réconcilié, amen, alléluia, gloire à Dieu. Le levain, je m'en fiche. Et qui finalement, eh bien, laisse le levain faire monter la pâte. Et on a vu la signification du levain la fois dernière. Et encore une fois, on se retrouve avec une notion d'équilibre. Et c'est ce que Paul dira au chapitre 6, verset 15. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Et de prolonger en expliquant que celui qui pêche, eh bien, il devient esclave du maître auquel il s'est servi. Donc, on doit avoir de l'œil gauche, je regarde le sang, De l'œil droit vers le levain. Seigneur, moi je suis sous la grâce, merci parce que tu m'as sauvé. Et je te bénis. Je te bénis parce que je ne méritais pas d'être aimé. Je te bénis parce que j'étais éloigné de toi. Je te bénis parce que j'étais menteur, j'étais voleur, parce que j'étais tricheur. Mais tu m'as aimé, tu m'as changé, tu m'as transformé. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, il y a encore des choses à transformer en moi. Je sais que ton Saint-Esprit en est capable. Je ne veux pas vivre sous l'accusation. Je ne veux pas vivre sous la condamnation. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Que ton esprit œuvre en moi. Mais Seigneur, en tout état de cause, ce n'est pas parce que je ne suis pas parfait que je ne veux pas te rendre culte qui t'honore. D'accord? Il y avait du levain. Deuxième chose que l'on peut constater, c'est que la chair devait être consommée le jour même. Pourquoi, à votre avis? Parce que la reconnaissance n'attend pas. Imaginez que vous fassiez un cadeau à quelqu'un, vous lui donnez le paquet, et puis il vous dit merci 4 jours après. En 4 jours, je pense que vous en aurez gros sur la patate. Ça devait être consommé le jour même. Ce qui nous parle de la promptitude à être reconnaissant. La reconnaissance doit être en réflexe. Enfin, de Pavlov. Tu m'as donné, je te remercie. Et j'ai envie de dire avec une certaine notion de proportionnalité. Seigneur, tu m'as donné. Je te donne en retour, quoi. Immédiatement, la chair devait être consommée. La reconnaissance n'attend pas. Deuxième cas de figure. Donc, le premier cas de figure, c'était par reconnaissance. D'accord? Deuxième cas de figure, on le lit à la suite. Combien de temps il reste? Oh, si bien, j'ai déjà dépassé le temps. Allez, on le fait quand même. Verset 16. Si l'oblation de quelqu'un correspond à un vœu ou à une offrande volontaire, le sacrifice sera mangé le jour où on l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Voilà. Donc, le deuxième cas de figure où ce sacrifice était offert, c'est lorsque un Israélite faisait un vœu, eh bien, ce vœu, il l'associait ce sacrifice, pardon, à ce vœu. C'est quoi un vœu? J'ai cherché, j'ai été surpris par la définition. C'est l'engagement volontaire de se consacrer à Dieu ou de lui donner soit un enfant, soit des biens, sous l'empire de la crainte ou du désir, l'homme de toute race a tendance à faire un vœu qu'il s'engage à accomplir. On le détaillera dans quelques mois lorsque on traitera, il y a un chapitre qui traite des vœux. Je suis sûr que vous avez hâte qu'on attaque. Bref, on s'aperçoit que c'est un engagement volontaire de se consacrer à Dieu, de consacrer une personne ou des biens à Dieu. Mais dans la loi, à aucun moment, Dieu n'exige que l'homme fasse des vœux. Et pour qu'un vœu soit valable, il fallait qu'il ne concerne pas quelque chose que Dieu possédait déjà. D'accord? On traitera ça en détail prochainement. Bref, c'était associé, et là encore, les modalités sont claires. Il doit être mangé le premier ou alors le second jour. Ce qui nous fait penser à deux passages, qui m'a fait penser à deux passages, le premier que l'on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, au verset 3 à 6. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Sauf Proverbe, chapitre 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Moralité, lorsque l'on a fait une promesse à Dieu, premièrement, il faut l'accomplir de suite. Il y a une petite tolérance, on pouvait encore consommer ça le lendemain, mais pas plus. le troisième jour après, le sacrifice n'était pas agréé. Deuxième chose, faisons attention à ce que nous disons à Dieu. Je vous le dis de temps en temps, mais Dieu a une meilleure mémoire que nous. Il se souvient de ce qu'on lui a dit. Souvenez-vous de Jephthé dans le livre des juges. Si tu me rends vainqueur de mes ennemis, alors la première personne qui sortira de chez moi, eh bien je te la consacre et je te l'offre en sacrifice. Jephthé, je ne t'ai jamais demandé ça. La victoire est là et la première personne qui sort de chez Jephthé, c'est qui? Sa fille. Et là encore, il va offrir sa fille en sacrifice. Il va la dédier à Dieu. Jamais Dieu n'avait demandé ça à Jephthé. Jamais. Pourtant, il l'a fait. Mesurons nos paroles devant Dieu. Certains ont dit, je te donne ma vie, ils ont mal tourné, ils ont fini pasteur. Faites attention, ça pourrait vous arriver. Je passe. L'offrande et celui qui l'offre doivent être purs. C'est la suite du texte. L'offrande ne doit pas avoir touché quelque chose d'impur. La personne qui l'offre ne doit pas avoir touché quelque chose d'impur. Bref, ça m'a fait penser au texte de Tite, chapitre 1, verset 15, qui dit que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais tous ceux qui sont impurs et qui refusent de croire, rien pour eux, rien n'est pur. Je vous laisse méditer. Et je vous renvoie au texte de Paul aux Corinthiens, notamment sur les viandes sacrifiées aux idoles. Très intéressant. Voyez-vous, dans le chapitre 3, nous avons vu que même les rognons et le foie devaient être offerts. Étrange, hein. Vous savez à quoi sert le rognon dans les corps? C'est mon Cameroun. Ils absorbent et rejettent les toxines et les poisons absorbés par le corps. Et le foie, il sert à quoi? Il sécrète notamment la bile, qu'on appelle également le fiel. Bref, pour qu'un sacrifice de reconnaissance soit agréé par Dieu, il faut que ces choses-là soient consumées. Il faut que il faut que notre foi, entre guillemets, hein, évacue toutes ces toxines-là. Et notre reconnaissance, elle sera alors eh bien, de bonne qualité pour notre Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Racine d'amertume. En conclusion, 6 points. Ça va être vite fait, c'est si tiré. La reconnaissance que l'on apporte à Dieu est premièrement obligatoire. Ce n'est pas une option. Selon des hommes et des femmes posent. Mais ce n'est pas une reconnaissance des lèvres que Dieu veut. C'est une reconnaissance du cœur. De grâce. Il doit être spontané. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui saute dans les bras de ses parents pour dire merci papa, merci maman, je t'aime. C'est magnifique ça, non? Eh bien, on peut sauter dans les bras de notre Dieu pour lui dire Seigneur, je t'aime. Troisièmement, elle est partagée. La vraie reconnaissance. Elle se partage avec mes frères et sœurs. Elle se communique. Quatrièmement, elle est pure. Parce qu'on a nos rognons, notre foi qui travaille bien. Et donc, tous les sentiments malsains, eh bien, sont filtrés. Elle est variée, cinquièmement. C'est un point qu'on n'a pas abordé. Vous avez pu remarquer dans le texte, dans le premier chapitre, dans le premier verset qu'on a lu, les mâles, c'était des adultes mâles et femelles qui étaient offerts. Alors que pour les holocaustes, c'était uniquement des mâles. Ce qui nous parle de la variété. Et il y a moult de manières de prouver notre reconnaissance. On peut offrir un paquet de chocolat, ou alors on peut offrir une Ferrari. C'est varié. Soyons imaginatifs. Je crois qu'il y a autre chose que les mots pour dire à Jésus merci. Trop souvent pour nous, ça suffit. Est-ce que pour lui, c'est le cas ? Et puis, il en découle de cette reconnaissance, bien souvent la prospérité et la paix, ne l'oublions pas. Quand mon cœur est reconnaissant, eh bien, quelque part, vous autorisez Dieu à m'en donner un petit peu plus. De la même manière que si vous avez deux enfants et que l'un vient vous dire merci et que l'autre, il ne vous dit jamais merci, peut-être que le chèque du premier sera un peu plus gros que le second. Je schématise, mais pas tant que ça. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Et nous fasse grâce.